Alors effectivement, nous, on se contente déjà de faire premièrement, c'est de montrer plusieurs choses. C'est que cette pollution plastique a un impact sur différents écosystèmes, y compris l'écosystème marin. Et c'est ce qu'on tente de faire auprès du grand public, auprès du monde scientifique aussi, en apportant des données complémentaires sur ce fléau, avec cette odyssée qu'on a fait l'année passée. Et l'autre chose, c'est effectivement de montrer qu'on a des options pour combattre cette problématique liée au plastique. Car effectivement, l'objectif, c'est pas d'arrêter sa production, c'est pas de s'en passer complètement, parce que on n'est pas en mesure de le faire et on n'arrivera pas à le faire très rapidement. En revanche, ce qu'on doit faire, c'est montrer que nos comportements par rapport à la gestion des déchets plastiques doivent changer. Et en particulier, il faut éduquer un plus grand nombre, il faut sensibiliser un plus grand nombre sur le fait qu'on peut trouver une valeur dans ces déchets plastiques, on peut le valoriser sous une forme qui est intéressante, par exemple en produisant de l'énergie.
Votre contribution scientifique, c'est aussi la transformation du plastique, parce que le plastique peut être retransformé en énergie. Ça, c'est une nouveauté avec notamment la création de machines. Et là, on est vraiment dans une ère nouvelle, dans quelque chose de complètement nouveau.
Alors, on a de nouvelles dimensions qui sont en train de s'ouvrir pour la gestion du plastique et pour la valorisation de ce plastique sous forme d'énergie. Nous, ce que nous souhaitons mettre en place, c'est des solutions qui soient les plus simples possibles pour récupérer un maximum de types de plastique différents, parce que la problématique du plastique dans sa valorisation, c'est le fait que ces plastiques sont souvent souillés par différentes matières organiques, matières minérales, et que ces plastiques doivent être séparés et récoltés de manière différenciée pour pouvoir les valoriser. C'est ce que je disais avant. Donc l'objectif, c'était de trouver une solution qui permettait de valoriser ce plastique-là de manière non différenciée et en réduisant au maximum tout ce qui était étape de nettoyage. Et une des solutions sur laquelle nous travaillons justement, c'est une solution qui permet d'ingérer et de transformer ce plastique-là sans avoir besoin d'une étape préalable de nettoyage, de séparation des différents types de plastique et qui permet d'aboutir à la création d'électricité au travers de multiples étapes qui va se créer sous une forme relativement propre. On a un intermédiaire qui est un gaz synthétique qui est produit et qu'on transforme ensuite en énergie, et on a un minimum d'émissions nocives, quasiment pas, qui sont générées par ce réacteur-là à haute température en fait, qui transforme la majorité en fait de ce matériel entrant.
Alors, ces machines, elles vont être installées à partir de la fin de cette année 2016, et puis après, il y en aura un petit peu plus à partir de 2017, notamment sur certaines îles, et on sait que certaines îles sont véritablement devenues des décharges à ciel ouvert. Quel est finalement l'aspect qu'on ne peut pas contrôler? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Qu'est-ce qui pourrait créer des soucis dans l'évolution de cette transformation du plastique?
Alors, il y a de multiples facteurs et je pense que c'est de par l'expérience qu'on pourra au fur et à mesure identifier les réels obstacles qu'on a à l'implémentation de ce genre de projet sur des contextes insulaires. L'objectif, c'est réellement justement d'identifier sur des projets pilotes ces obstacles qu'on pourrait rencontrer avec des machines de faible capacité. À l'heure actuelle, on planche sur des machines de 5 tonnes jour de traitement, ce qui veut dire que c'est à partir de ces petits contextes qu'on va pouvoir identifier réellement les éventuels problèmes techniques, les éventuels problèmes sociaux, les éventuels problèmes économiques qu'on pourrait et qu'on n'a pas réussi à identifier en amont, à prévenir. Mais globalement, ce qu'on essaye de faire, c'est déjà de connaître un maximum les différentes initiatives qui ont pu voir le jour jusqu'à l'heure, sachant que pendant notre édition, on a rencontré des personnes qui travaillent déjà avec une machine qui transforme le plastique en pétrole. Là aussi, c'est des expériences in situ, des expériences sur le terrain qui sont très importantes pour comprendre les éventuelles problématiques qu'on pourrait rencontrer à terme. Mais pour l'instant, en tout cas, les feux sont au vert et on espère bien pouvoir mettre en œuvre rapidement ce premier projet pilote, histoire de pouvoir dire ensuite, voilà, pour augmenter cette capacité, travailler sur des métropoles, sur des contextes où on a des quantités plus importantes de plastique, les éventuels obstacles qu'on pourrait rencontrer sont ceux-ci.
L'aspect scientifique est important, mais ce qui est primordial, c'est l'information. Et nous faire prendre conscience que les déchets plastiques sont un véritable désastre pour les océans. On retrouve Marco Simeoni, président de Race for Water.
Alors exactement, il faut déjà qu'on arrive à modifier nos propres comportements. 35% de la production mondiale, par exemple, de plastique est à usage unique, c'est-à-dire on prend et on jette. Donc là, il y a vraiment un effort important à faire. pour diminuer ce gaspillage. Après, il y a énormément d'axes sur lesquels il faut travailler pour pouvoir, stopper ou enrayer cette hémorragie. Il faut travailler sur la sensibilisation, sur l'éducation, il faut travailler sur les lois, avec les politiques, il faut travailler avec les industriels, sur les produits alternatifs, sur le recyclage, et bien sûr des techniques ou des solutions de transformation, de valorisation de ces déchets.
Est-ce que parfois c'est plus difficile d'aller près des politiques ou des industriels? Parce qu'on sait que le politique, il ne va pas claquer des doigts en disant « Ouais, c'est bon, on a les sous, on va trouver la solution d'ici demain. »
Non, c'est sûr que c'est un combat qui n'est pas du tout facile. Faire bouger les lignes, c'est compliqué. Je pense qu'au niveau des politiques, ils sont de plus en plus conscients du problème. Ce qui est assez difficile en Suisse, c'est qu'on n'est pas en bordure d'océan. Ça nous paraît assez loin, tout ce qui est océan. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ça nous touche quand même directement au travers de l'oxygène, au travers des poissons, de la nourriture. Maintenant, au niveau des industriels, là, c'est compliqué parce que les industriels sont conscients, plus que pleinement conscients du problème, mais arriver à les faire nous soutenir ou nous aider de manière à pouvoir déployer notre programme ou des solutions, c'est plus compliqué.
Après cette odyssée qui a duré une année, on sait qu'à la fin de cette année, et notamment pour 2017, il y a déjà de ces machines qui seront installées sur certaines îles. Mm-hmm. Est-ce que pour vous, c'est un rêve qui se réalise concrètement?
C'est une bonne question, un rêve. Le rêve, ce serait de pouvoir avoir un océan propre, de pouvoir pratiquer de la plongée sans devoir se frayer un chemin au travers des plastiques. C'est une obligation, il faut agir, on se doit de réagir, on se doit de faire quelque chose. Donc le jour où ce type de technologie ou de solutions seront déployées sur certaines îles grâce aux activités de la Fondation Restaurateur, c'est sûr que je serai très fier de ça. Mais en même temps, on a un devoir de réessayer de mettre notre planète dans un état environnemental qui soit suffisamment propre pour garantir la survie des générations futures et de nos enfants.